OK, oui, le Québec qui rapporte 10 573 nouveaux cas de COVID. C'est une baisse de 6 % depuis une semaine. Sur les 2 554 personnes hospitalisées, 248 se retrouvent aux soins intensifs, diminution de 9 %. On va faire le point sur la situation pandémique avec Dr. Alex Carignan, médecin, microbiologiste, infectiologue au CIUSSS de l'Estrie, centre hospitalier de l'Université de Sherbrooke et prof à l'Université de Sherbrooke. Salut, Alex!
Salut, Patrick.
Écoute, j'ai plein de questions d'auditeurs, mais juste avant, là, quand tu regardes les chiffres de la COVID, les infections, le taux de positivité, les hospitalisations, qu'est-ce que tu es capable de lire là-dedans?
Bien, en fait, évidemment, on a encore du temps difficile devant nous, là, particulièrement dans les hôpitaux. Le nombre de cas d'hospitalisation risque encore d'augmenter pour les prochains jours, mais quand même, la hausse des cas, en fait, semble ralentir. Donc, est-ce qu'on s'approche d'un plateau? Peut-être. Puis quand on regarde le nombre de cas bruts, bien sûr, là, c'est très difficile maintenant de le suivre parce que les indications ont été beaucoup réduites, le nombre de tests a diminué, on ne teste plus les mêmes gens. Mais le taux de positivité, qui est peut-être une mesure quand même qui peut nous aider à voir un peu dans ce brouillard-là, qui n'est pas parfaite, mais baisse, le taux de positivité baisse aussi. Donc, j'ai l'impression qu'on s'approche peut-être d'un point tournant dans cette vague-là.
Okay.
On l'espère du moins.
Parfait.
On veut pas jouer au jovialiste cet après-midi, mais il y a peut-être une petite lueur d'espoir.
Écoute, on sait que tu n'es pas jovialiste, fait que quand toi tu nous dis qu'il y a peut-être une lueur d'espoir, on va la prendre on va prendre ça. Alex, qu'est-ce qui se passe présentement dans les hôpitaux? On sait, là, on voit les statistiques, on voit les soignants qui parlent, qui disent à quel point la situation est critique. Qu'est-ce qui se passe dans les hôpitaux que tu n'aurais jamais imaginé personnellement comme médecin?
Ah, il y a plusieurs choses. Bon, si on regarde, par exemple, les patients hospitalisés pour la COVID, bien, les médecins qui les hospitalisent, il n'y en a plus assez. Donc, il y a des spécialités, par exemple, chez nous, bon, des endocrinologues, des gastro-entérologues, des gens qui habituellement s'occupent pas du tout de problèmes infectieux ou très peu. Là, ils viennent à la rescousse, ils viennent donner un coup de main pour aider, pour s'occuper des patients hospitalisés pour la COVID. Il y a une autre chose, c'est que là, la semaine dernière, on a reçu des avis, entre autres, il y a un manque de personnel de soins infirmiers tellement important. On en a parlé beaucoup, mais je dirais l'aspect très pratique, nous, pour les médecins, on nous a demandé, en fait, on nous a montré des cadres de travail où il y avait des disponibilités, où les médecins pourraient aider, par exemple, pour aller prendre des signes vitaux, faire certaines activités de soins infirmiers. Évidemment, les médecins, on n'est pas formés pour être des infirmiers, des infirmières, mais il y a certaines tâches qu'on peut aider, puis disons en période, on peut appeler ça en période de guerre, les gens peuvent donner un coup de main à différentes tâches. Donc ça, ce sont des choses qu'effectivement, j'aurais jamais pensé voir durant ma carrière.
Est-ce que, regarde, on sait là que ça déborde, on sait que ça dépend des régions, ça dépend des hôpitaux. Dans ton coin, en Estrie, est-ce que c'est sous contrôle ou est-ce qu'on est rendu dans une forme de médecine de brousse?
Ben, je dirais pas médecine de brousse encore. Je pense que les gens qui viennent sont très bien soignés, reçoivent des soins, reçoivent la médication selon, disons, les dernières évidences scientifiques. Par contre, la situation est très difficile. Puis je dirais, c'est pas tant les patients qui sont présents, c'est plutôt ceux qui ne sont pas là qu'on devrait s'occuper. Les gens qui devraient avoir des chirurgies pour des cancers, pour toutes sortes de conditions, c'est ça actuellement qui est le gros problème, selon moi, les victimes un peu du délestage. Quand on entre à l'hôpital, je peux vous assurer qu'on est encore très, très bien soigné, mais le problème, c'est qu'on y entre de moins en moins quand on a des conditions catégorisées comme moins, disons, urgentes, même si certaines d'entre elles le sont quand même.
Alex, j'ai demandé aux gens de m'écrire s'ils ont des questions là, pour toi. Notamment, ce qui sort beaucoup, c'est, OK, j'ai eu 2 doses. J'ai eu la COVID. Qu'est-ce qui arrive avec la 3e dose? Est-ce que je la prends? Et si oui, qu'est-ce que je prends et dans combien de temps?
Ça, c'est une question complexe qui a fait couler beaucoup d'encre, oui. Entre autres, la semaine dernière. Je pense que c'est adéquat de le prendre. Ça dépend, en fait, du moment aussi où on a fait la COVID. Les gens qui viennent tout juste, là, parce qu'actuellement, je dirais, c'est la question qui se pose le plus fréquemment. Les gens ont reçu 2 doses, bon, l'été dernier, par exemple, puis ils font la COVID à Noël. Dans ce cas-là, bon, d'abord, on doit certainement pas aller chercher une 3e dose quand on est infecté. Donc, on doit attendre la fin de notre période de contagion. Ça, c'est le gros minimum. On recommande d'attendre un minimum de 3 semaines, mais je vous dirais que la plupart des experts ont dit d'attendre autour de 2 mois après l'infection, parce que on va en tirer un plus grand bénéfice de notre vaccin. C'est pas que c'est dangereux de le recevoir, mais si on veut vraiment, disons, l'optimiser, moi, j'irais chercher cette 3e dose, mais j'attendrais probablement autour de 8 semaines suite à mon épisode de COVID, par exemple, du temps des fêtes.
OK. Pour ce qui est de la marque du vaccin de la 3e dose, Alex, on me dit qu'il y a des gens qui magasinent dans les centres de vaccination leur marque de vaccin. Ils veulent telle marque, mais pas telle marque. Est-ce que tu as des échos de ça aussi?
Non, ben effectivement, bon, par exemple, des gens qui avaient eu 2 doses de Pfizer, là actuellement on offre beaucoup de Moderna dans certains cas, puis là les gens le refusent. Mais ça, en fait, c'est tout à fait injustifié. Les deux vaccins sont excellents, produisent une excellente réponse immunitaire, et on avait des données là par rapport principalement à 2 doses, mais le fait d'interchanger un vaccin ou l'autre, en fait, n'a pas d'impact sur l'efficacité clinique. On a une efficacité clinique qui est tout à fait similaire, donc j'encouragerais pas les gens à faire du magasinage. Vous êtes là, on vous offre un vaccin, prenez ce qu'on vous offre actuellement. L'offre qui est présente, en fait, ce ne sont que des vaccins qui sont tout à fait adéquats.
OK, Alex Carignan, il y a des gens qui disent, bon, Omicron est très contagieux, ben, c'est peut-être une bonne chose. Tout le monde va l'attraper, ou presque tout le monde, puis là, on va être immunisé. Toi, là, comme personne qui a choisi le métier d'étudier les virus, qu'est-ce que tu penses de cette affirmation-là?
Ben, c'est une affirmation qui est présente depuis le début de la pandémie. Le problème avec ça, oui, bon, dans plusieurs cas, les gens vont le faire, vont être malades, mais pas tellement malades, ne seront pas hospitalisés, mais bon... Ça risque de se faire aux dépens, disons, d'infections très, très sévères. Puis là, actuellement, c'est ce qu'on voit. Les niveaux d'hospitalisation sont à un niveau sans précédent parce que, oui, effectivement, quand l'infection, disons, se propage dans la communauté, inévitablement, les gens plus vulnérables vont l'attraper. Puis même dans certains cas, des gens qui ne sont pas classifiés comme étant vulnérables peuvent faire aussi des infections très, très sévères. Donc, certainement, disons, faut pas laisser ramper le virus, faut pas le laisser se propager, disons, de façon incontrôlée. Ça, c'est clair dans mon esprit.
Alex, sur ton fil Twitter, j'ai vu que tu as relayé il y a quelques jours une étude britannique sur les effets de la COVID sur des gars qui sont très, très en forme, c'est-à-dire des joueurs des ligues de soccer élite allemande et italienne. On a décortiqué leur performance et j'ai l'ai parcouru. J'ai trouvé ça fascinant parce que ça a vraiment un impact sur la performance de ces athlètes-là.
Oui, absolument. Puis ça, c'est justement, ça défait un peu le mythe que bon, les gens qui sont en bonne santé ont un très bon système immunitaire, ils seront peu ou pas du tout atteints par la COVID. Ce qu'on voyait, en fait, des joueurs de ligues professionnelles de soccer en Europe, Allemagne, Italie, on a vu une baisse significative de leur performance sportive. Là, c'était mesuré, entre autres, par le nombre de minutes de jeu, le nombre de passes qu'ils pouvaient effectuer. Et c'était très, très clair qu'après un épisode de COVID, bon, évidemment, à très court terme, il y a une baisse de performance, mais cette baisse de performance sportive-là persistait même souvent plus de 3 mois après l'épisode. Donc, ça défait un peu ce mythe-là. C'est vrai que pour la plupart, peut-être qu'effectivement, disons, en termes de maladie, ça ne sera pas si sévère, mais disons, pour des gens qui performent, qui ont besoin d'un très haut niveau de performance physique, clairement, le virus a un impact sur eux. Bon, plus près de chez nous, là, sans avoir mesuré ses performances, il y avait eu Brendan Gallagher qui l'avait mentionné, bon, qui avait été quand même très, très malade. Donc, faut pas penser que parce que des gens sont en, disons, excellente santé, oui, ils risquent moins d'avoir des complications graves, mais ils sont quand même pas, disons, exempts de toute complication. Voilà.
Merci beaucoup, Alex. Toujours un plaisir.
Merci. Bonne semaine à tout le monde.
Salut, c'était Alex Carignan, médecin microbiologiste, infectiologue au CHU de Sherbrooke. OK, on va aller parler avec Luc.